France Culture.
Entrez donc dans la danse des Midis de Culture, deuxième acte. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent et bienvenue à Marie Sorbier pour le Point Culture.
Bonjour Marie et bonjour à tous. La pérennité de l'identité indienne aux États-Unis s'inscrit dans l'histoire du pays, de la conquête à la colonisation. Mais aujourd'hui, pour beaucoup d'Américains, les Indiens, alors même qu'ils représentent plus de 2% de la population américaine, sont davantage une image, une histoire absorbée par la culture populaire de Geronimo à Pocahontas. Alors comment les 574 nations indiennes reconnues font-elles pour sortir de l'imaginaire et prendre part à la réalité du présent, c'est le dossier du Point Culture du jour. Joëlle Rostowski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ethnohistorienne et vous venez de publier aux éditions du CNRS « Vainqueur et invaincu, la question indienne de Washington à Trump », livre dans lequel vous revenez sur la survivance de la conscience amérindienne dans l'histoire américaine et notamment contemporaine. Et vous dites, en introduction, que les Indiens sont à la fois, je vous cite, « extraordinairement présents et terriblement absents du paysage américain ». Comment expliquez-vous ce paradoxe ?
Alors, c'est vrai qu'on est très, très frappé lorsqu'on va aux États-Unis fréquemment par le fait que beaucoup d'Américains ne vont jamais en terre indienne déjà et puis n'y pensent pas. L'enseignement est quand même assez réduit sur l'histoire aux États-Unis. Et donc, les Amérindiens, c'est un peu pour eux la nostalgie de l'enfance, des récits, c'est Pocahontas, tout ce qui fait partie de la culture populaire, des publicités où on voit des grands chefs qui fument des cigares, enfin, tout ce qui est en fait la culture quotidienne, mais la fréquentation des Amérindiens est assez peu fréquente pour les Américains, sauf bien sûr ceux qui s'intéressent à leur culture et à leur histoire.
Ce que vous voulez dire, c'est que finalement, pour les Américains aujourd'hui, cette présence amérindienne, elle est plus dans les récits ou dans les images que dans la réalité quotidienne ?
Oui, mais en fait, il y a des moments quand même, on parle beaucoup des Indiens au moment du Red Power dans les années 70, 80. On a beaucoup parlé d'eux. Ils étaient beaucoup dans les médias. Tout dépend de leur présence médiatique, en fait. Actuellement, ils sont surtout présents lorsqu'il y a un film dont on parle beaucoup, par exemple, Danse avec les loups, ou bien le film de Scorsese récemment, Killers of the Flower Moon, qui pourtant n'a pas remporté un succès colossal, mais enfin, qui a quand même été assez vu et qui a fait parler de l'histoire. Mais c'est comme ça, c'est ponctuel. Il est très rare, en fait, que des Américains se rendent en terre indienne, dans les réserves, et pourtant, ils les croisent, parce que deux tiers des Amérindiens vivent maintenant dans les villes. Il y en a beaucoup en Californie, il y en a beaucoup dans les grandes villes du Sud-Ouest. Il y en a même dans les campus parce qu'ils étudient, ils font des diplômes. Maintenant, ils vont largement jusqu'au master. Il y a des juristes, des économistes. Mais ce n'est pas comme si vraiment les Amérindiens étaient pris en compte dans ce qu'on appelle le melting pot américain. Ils sont à part, ils ont un statut à part. Et on les regarde un petit peu comme surgis du passé.
Alors, dans l'histoire contemporaine, les deux derniers présidents, Joe Biden ou Donald Trump, ont eu, eux, deux visions très différentes de la présence amérindienne.
Alors, c'est clair. C'est vraiment clair parce qu'on est quand même frappé de voir que Biden, dont on s'est souvent moqué, qui maintenant, bien sûr, avec le président Trump, est ridiculisé, a fait beaucoup pour les Indiens. D'abord, il a choisi comme secrétaire à l'intérieur une Amérindienne, Deb Haaland, une Indienne Laguna, qui donc a été chargée de tout ce qui concerne les terres publiques, les parcs nationaux, et qui a une vision très écologique, une vision de protection des terres indiennes aussi contre l'exploitation abusive des ressources, contre l'exploitation des schistes bitumineux. Elle a été très, très importante, donc choisie par Biden. Et bien sûr, avec Trump, on a une vision complètement différente parce qu'il s'agit au contraire de forer au maximum, d'exploiter les ressources. On ne sait pas très bien dans quel pays ou dans quelle région des États-Unis il va s'orienter. On a parlé du Groenland, bien entendu. Est-ce qu'il va essayer de multiplier les forages en terre indienne ? On ne le sait pas, mais certainement c'est un risque.
Alors, comment cette présence amérindienne s'exprime-t-elle aujourd'hui dans l'art, que ce soit par exemple dans la littérature ou dans les arts plastiques ? Est-ce que l'art est un moyen d'expression aujourd'hui pour les Amérindiens ?
En fait, leurs moyens d'expression sont multiples maintenant parce qu'ils ont des cabinets de juristes pour défendre leurs droits, ils ont beaucoup de diplômés, ils ont énormément d'écrivains. On a la chance en France d'avoir plusieurs éditeurs qui ont vraiment traduit presque au moment où ces livres étaient publiés aux États-Unis ou un ou deux ans après les grands chefs-d'œuvre en fait de la littérature amérindienne. Je pense en particulier à Scott Momoday, avec son très beau roman « Une maison faite d'aube » qui a obtenu le prix Pulitzer déjà en 1969 et qui a ouvert la voie à plusieurs générations en fait d'écrivains. On pense à Louise Eldridge, on pense aussi à Joy Harjo qui est devenue il y a 4 ans en fait la poète lauréate des États-Unis. C'est un très très grand honneur. Et on constate aussi que sur le plan artistique, ils sont très actifs. Alors, ils sont très actifs comme artistes contemporains. Ils sont aussi très actifs dans les musées. Parce que, en fait, ce qui s'est passé depuis les années 1990, et ça, c'est un petit peu grâce à George Bush père, qui a adopté une loi, la loi qui prévoyait la création d'un grand musée amérindien à Washington, donc qui a ouvert ses portes un peu plus tard, en 2004, où on peut véritablement découvrir la culture indienne. Il y a une exposition très intéressante justement sur la présence des Indiens dans la culture populaire, dans la publicité, et aussi une très belle exposition sur les traités, parce que ce sont les traités qui en fait ont ordonné les relations avec les Amérindiens. Donc on voit qu'ils sont très présents au niveau muséal, ils ont carrément pris le pouvoir, on peut dire, dans beaucoup d'institutions muséales. Et sur le plan de l'art contemporain, il y a eu des institutions extrêmement actives comme le Musée des Beaux-Arts de Santa Fe. Le Musée des Beaux-Arts de Santa Fe qui s'appelle Institute of American Indian Art, dont sont issus une très grande partie des artistes contemporains d'aujourd'hui. En fait, la reconnaissance de l'art contemporain s'est faite à partir des années 50. Il y a de très grands sculpteurs comme Alan Hauser, un sculpteur apache. En fait, on voit que c'est vraiment 3 générations après la reddition des Apaches, en fait, avec Geronimo. On voit que Alan Hauser est vraiment un sculpteur de dimension internationale. Il a d'ailleurs exposé beaucoup en Allemagne, un peu en France. Et il est comparable à un grand sculpteur comme Henry Moore, par exemple. Il y a d'autres sculpteurs plus récents. Donc, il y a justement un sculpteur de verre qui est vraiment magnifique, qui s'appelle Preston Siegel Terry, qui est maintenant exposé un peu partout, côte est, côte ouest. Et on voit que, justement, aussi au niveau européen, il y a un artiste qui a été reconnu à Venise, à la Biennale, l'an dernier. Il s'appelle Jeffrey Gibson. Il a été exposé dans le pavillon américain, qui lui a accordé l'exclusivité. Donc on voit toute cette effervescence littéraire et artistique qui n'exclut pas bien sûr les problèmes économiques qui demeurent, les traumas des pensionnats dont on a aussi beaucoup parlé. Donc il y a ces pôles en fait de dynamisme et ces pôles d'inquiétude qui demeurent aujourd'hui.
Bien, merci beaucoup Joël Rostkowski. Je rappelle que votre livre « Un vainqueur et invaincu, la question indienne de Washington à Trump » vient de sortir aux éditions du CNRS. Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, l'auteur québécois Victor Lévy-Beaulieu est mort.
Oui, et c'était un écrivain majeur au Québec depuis son premier roman « Mémoire d'outre-tonneau » en 1968. Il a été un auteur prolifique avec plus de 80 livres parus, des romans, des essais, des pièces de théâtre et de la poésie. Il a aussi écrit des textes radiophoniques et des séries télévisées qui l'ont fait connaître au grand public québécois. Le Québec prenait une place importante dans ses ouvrages, mais aussi dans ses prises de position, puisqu'il a été un ardent défenseur de l'indépendance de ce territoire.
Et pour finir, Marie, le Lion d'or d'honneur sera remis à Kim Novak.
Et oui, à la Mostra de Venise qui se tiendra du 27 août au 6 septembre prochain, la plus haute distinction récompensera l'ensemble de sa carrière. L'actrice de 92 ans qui s'est éloignée du cinéma a eu plusieurs vies, comme égérie hitchcockienne d'abord, lorsqu'elle incarnait Judy dans Sueur froide, comme star de cinéma américain des années 1950 avec des films Picnic ou L'homme au bras d'or, comme une figure rebelle aussi puisqu'elle a réclamé d'être autant payée que ses équivalents masculins, et ce dès le début de sa carrière et elle a cherché à s'émanciper des rôles féminins trop caricaturaux. À partir des années 70, ses apparitions se sont faites plus ponctuelles jusqu'à son dernier film en 1991. Depuis, elle se consacre aux chevaux, aux lamas et à la peinture qu'elle avait étudiée avant de devenir actrice.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. À demain. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.